explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
En décembre 1951, à Córdoba, en Argentine, deux jeunes hommes enfourchent une vieille moto Ducati pour se lancer dans un grand voyage de 8000 km à travers l'Amérique du Sud. Ils sont jeunes, insouciants, ont envie de voir du pays, envie de liberté et de légèreté. L'un de ces deux hommes est âgé de seulement 23 ans. Il se nomme Ernesto Guevara. Il est loin de se douter que ce périple va être pour lui un voyage initiatique. Au fil du chemin, il va découvrir la misère et l'injustice dont sont victimes les peuples opprimés des pays qu'il traverse. C'est ce voyage qui fera du jeune Ernesto un révolutionnaire, le Comandante Che Guevara. 65 ans plus tard, l'écrivain François-Henri Désérable a décidé de refaire le parcours du jeune Ernesto et de son comparse de Buenos Aires à Caracas. Il est passé par l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie et le Venezuela, s'est octroyé quelques détours sur le parcours. Que cherchait-il en se lançant dans ce grand périple? Qu'a-t-il trouvé? François-Henri Désérable raconte son voyage, ses errements, ses émerveillements et les réalités plus sombres qui ont jalonné ses 5 mois de voyage dans un joli livre intitulé « Chagrin d'un chant inachevé » aux éditions Gallimard. Cet après-midi, François-Henri Désérable nous emmène à moto, en stop, en bateau, à travers l'Amérique du Sud, sur les pas d'Ernesto Guevara avant qu'il ne devienne le Che. Louise Cognard a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Benjamin Wagon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Adieu, muchacho, compañero de mi vida, barra querida de aquello tiempo.
Le plan. Parcourir 8000 km en 4 mois. La méthode. L'improvisation. L'objectif, explorer le continent latino-américain qu'on ne connaît qu'à travers les livres. L'équipement, la vigoureuse. Une Norton 500 modèle 39, toute déglinguée. Le pilote, Alberto Granado. Un ami grassouillé, 29 ans, biochimiste, autoproclamé scientifique errant. Le copilote, ce sera moi, Ernesto Guevara de la Serna, surnommé Fouzeur, 23 ans. Étudiant en médecine. Nos points communs? Notre curiosité, notre esprit rêveur. Et notre passion pour la route.
Bon, c'est l'heure de partir. En route!
Allez, courant!
Et ben voilà!
Allez, bonne route!
Allez, en route! Ah!
Du film Carnet de voyage qui retrace le voyage à moto d'Ernesto Guevara et de son comparse Alberto Granado. Bonjour François-Henri Désérable.
Bonjour Daniel Fievé.
Pourquoi Ernesto Guevara part-il à 23 ans, en décembre 1951, avec cet ami à moto pour ce grand voyage? Parce qu'il voit grand, 8000 km devant lui.
Ah, est-ce qu'on est obligé de se poser cette question-là? Parce que moi, je pense à Nicolas Bouvier qui disait « Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. » Et Guevara et Granado, en fait, ils partent pour vivre une aventure, pour voir du pays, peut-être pour en apprendre un peu plus sur eux-mêmes, mais avant tout pour vivre une aventure, pour découvrir, partir à la découverte de cette Amérique que Guevara, dans son carnet, appelle l'Amérique majuscule.
Ouais. Et il n'a pas du tout de visée politique à ce moment-là.
Non, absolument.
C'est beaucoup plus naïf que ça, finalement.
Ouais, absolument aucune visée politique, et ça n'est qu'au fil du voyage que va s'ébaucher dans son esprit une certaine forme de conscience politique. Il va prendre conscience qu'il y a beaucoup de Sud-Américains qui sont exploités, qu'il y a énormément de misère, qu'il y a beaucoup d'inégalités, et puis ces inégalités, il va bien falloir peut-être essayer de les résorber en quelque sorte.
Alors j'ai bien compris que le voyage se passait de motifs. Ceci dit, vous, François-Henri Désérable, vous partez sur les traces du Che. Vous partez pas comme ça à l'aventure en Amérique latine. Vous cherchez un fil conducteur ?
Non, mais je partais surtout en Amérique latine, en Amérique du Sud, parce que lorsque j'étais enfant, je me perdais souvent dans la contemplation béate d'une carte qui se trouvait punaisée à côté du tableau. Et je trouve qu'il y a une véritable symphonie des toponymes sud-américains. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les noms des villes sud-américaines et que vous voyez Lima, Caracas, Buenos Aires, lorsque vous voyez la Terre de Feu, Ushuaia, Machu Picchu, lorsque vous lisez Valparaiso, ouais. Cusco, Sucre, lorsque vous lisez ces noms-là, eh bien vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller.
Ouais.
Et donc depuis longtemps, j'étais titillé à l'idée d'aller mettre mes pieds en Amérique latine, et il se trouve que j'avais lu le récit de Guevara, j'avais lu celui de Granado, son compagnon de voyage, j'avais vu le film de Walter Salles, Carnet de voyage, et je me suis dit que eh bien, j'allais, plutôt que de me laisser aller au hasard de mes pas, eh bien, j'allais essayer de mettre mes pas dans ceux du jeune Ernesto.
Alors, les habitués du temps d'un bivouac reconnaissent peut-être votre voix ou simplement ont retenu votre nom et vous ont lu. Vous étiez venu nous raconter votre voyage en Iran après la mort de Mahsa Amini, à la rencontre des Iraniennes et des Iraniens, en lutte pour leur liberté. Vous aviez raconté votre périple dans un superbe livre, hein, « L'usure d'un monde ». Le titre rappelait le livre de Nicolas Bouvier, « L'usage du monde ». Et là encore, en faisant ce voyage, vous partiez sur les traces de Nicolas Bouvier en refaisant son trajet, tout en faisant toujours un peu des détours. Hein. Vous octroyez toujours quelques petites libertés. Mais il y a quand même cette idée de mettre vos pas dans ceux d'un prédécesseur.
Peut-être qu'il me faut un prétexte pour voyager, mais un prétexte en deux mots, c'est-à-dire avec un tiret. L'envie de ces voyages est venue de la lecture, mais je vous promets qu'un jour, je parviendrai à forger mon propre itinéraire.
Ouais. Mais d'ailleurs, vous écrivez au détour de l'introduction de votre livre, les écrivains eux-mêmes avaient tant voyagé qu'on ne pouvait prendre une seule direction sans se mettre aussitôt dans leurs pas. Chateaubriand de Paris à Jérusalem, Nerval et Flaubert en Orient, Stendhal et Giono en Italie, Rimbaud en Abyssinie, Stevenson avec un âne dans les Cévennes, David Nel de la Chine à l'Inde à travers le Tibet et la Maillard jusqu'aux confins de l'Asie. On sent que vous voyagez avec tout un aéropage d'écrivains avec vous.
Écoutez, c'est le meilleur moyen de voyager en restant confortablement assis dans un fauteuil de lire les écrivains voyageurs. Et moi, c'est d'abord venu de la lecture, venu de la contemplation silencieuse des atlas, et puis ensuite, on a envie d'aller se confronter tout de même à ce qu'on a pu lire.
Ouais, la contemplation des atlas, ça vous fait aussi un point commun avec Nicolas Bouvier, hein, qui se disait à plat ventre devant les atlas.
Sur le tapis du salon, oui.
Sur le tapis du salon.
Il a envie de tout planter là.
Ouais. Ouais. Alors vous, c'était presque plus contrarié que ça, parce que votre instituteur, vous voyant lorgner la carte au mur dans la classe, disait, vous réussirez pas comme ça, vous irez nulle part.
J'étais un peu dans la lune et il me prenait en contre-exemple et il disait à mes camarades, faites comme lui et vous n'irez jamais loin.
Ouais.
Et
il s'est trompé.
J'ai commencé ce livre en Patagonie.
Voilà, c'est ça. Alors, le goût du voyage, l'envie de voyager est venu très tôt, sur les bancs de la classe. Par contre, la lecture est venu plus tardivement.
À 18 ans.
Ouais. Comment c'est venu, le goût des livres ? Parce qu'on le sent au fil des pages, vraiment, il y a ce plaisir de la littérature, de voyager avec les auteurs.
C'est venu de manière totalement inattendue, parce que moi, j'étais joueur de hockey sur glace et je...
Professionnel, vous avez été au cœur de...
Pendant une dizaine d'années. Ouais. Et à partir de 18 ans, pour combler le désœuvrement de mes heures creuses, c'est-à-dire entre deux entraînements, eh bien, j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque Louis Aragon, à Amiens, qui était la ville où j'habitais. Je ne savais rien de ce Louis Aragon, je ne savais pas qui il était, je ne savais pas qu'il allait devenir l'un de mes poètes préférés. Et puis j'ai pris des livres par dizaines, par centaines, et je me suis mis à lire et je me suis mis à moissonner cet immense champ que je n'aurais jamais fini de moissonner. Et ça ne m'a jamais lâché. Ouais. Ça aurait pu être une passade, ça aurait pu être une lubie passagère, et finalement, eh bien, j'en ai fait l'articulation de mon existence. Puisque aujourd'hui, lire et écrire, c'est comme inspirer et expirer.
Alors, ce voyage sur les pas de Ernesto Che Guevara, on en parle aujourd'hui, mais en fait, vous l'avez fait il y a 8 ans, c'est-à-dire même avant celui que vous étiez venu nous raconter pour l'Iran. C'est-à-dire, on est en 2016, si j'ai bien compté.
Je pars en décembre 2016 et je rentre en mai 2017.
Et alors, à ce moment-là, vous saviez déjà que ça donnerait un livre ou c'est avant tout un voyage qui ensuite a pris place dans un livre.
Donc, contrairement au voyage iranien pour l'usure d'un monde, j'étais parti en Iran sans savoir que j'allais en revenir avec un livre. Mais l'Amérique du Sud, je savais que je voulais tirer un récit de mon voyage. Mmh. Et Chagrin d'un chant inachevé, j'ai commencé à l'écrire un peu en rentrant et puis j'ai publié un autre livre qui s'appelait Un certain monsieur Piekielny, qui m'a pris beaucoup de temps. Et puis ensuite, je ne sais pas, j'ai eu une petite déprime qui a duré quelques mois, si ce n'est quelques années, où je me suis arrêté d'écrire et puis je me suis remis à ce livre. Enfin, tout ça a été assez
long cheminement, l'écriture de
le cheminement de l'écriture a été beaucoup plus long que celui du voyage, paradoxalement. Ouais. Ouais.
Et pour ce grand voyage, vous le débutez après, vous serez seul, mais au début, vous comme pour Ernesto Guevara, vous avez un compagnon de route, et vous le choisissez comment, votre compagnon de route?
Eh bien, je voulais quelqu'un d'assez, d'abord de libre, pour pouvoir partir avec moi, d'assez aventureux et d'hispanophone. Il se trouve que mon ami Quentin, qui était un ancien joueur de hockey sur glace avec qui j'avais joué à Lyon, cumulait ces trois qualités. Et lorsque je l'ai appelé pour lui dire « Est-ce que tu veux traverser l'Amérique ?», je n'ai pas eu le temps de lui dire « Du sud à moto avec moi », qu'il m'avait déjà répondu oui.
Ouais, c'est ça. Et alors j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est qu'une impression, que vous l'avez aussi choisi parce qu'il est un peu romanesque, ce Quentin qui vous accompagne. Romanesque et aussi un peu burlesque. En tout cas, il a une façon, telle que vous le décrivez, de réagir aux événements, de se comporter pendant le voyage, qui est du pain béni pour un écrivain, j'ai l'impression.
Bah, écoutez, c'est quelqu'un que j'avais vu un jour à Lyon, place des Terreaux, devant la fontaine Bartholdi, séparait deux ivrognes qui étaient en train d'en découdre, d'une manière tout à fait inattendue, parce que il avait d'abord retiré son t-shirt comme s'il allait se battre avec eux, puis il avait enlevé son pantalon, et puis il avait retiré son caleçon, etc. Se retrouvant nu devant eux, ils ont fini par prendre la fuite en se disant que le type était fou. Donc c'est ce genre de voilà. C'est ce genre de personnage
quand qui face à l'adversité se met tout nu.
Voilà, qui peut tout à fait avoir une conduite désarçonnante, mais très romanesque. Mmh. Et ensuite, pour un écrivain, c'est vraiment extrêmement fécond de fréquenter des gens comme ça.
Oui, c'est-à-dire que lui, là, à un moment, vous vous faites agresser, alors vous ne vous étendez pas sur l'histoire, mais vous dites quand même que vous avez un tesson de bouteille
sous
la gorge, et il réagit d'une façon diplomatique assez étonnante, flegmatique.
C'est-à-dire qu'on cherchait... on était à la Boca, qui est un barrio de Buenos Aires, et on cherchait le stade de Boca Juniors. C'est l'équipe où a commencé Diego Maradona. Et puis, moi, je lui dis, je pense que c'est à droite. Quentin me dit, non, c'est plutôt à gauche. Et puis, on finit par se perdre. Et là, bon, il y a une micro-agression, un type qui me met un tesson de bouteille sous la gorge. Puis, finalement, il finit par s'en aller après qu'on a vidé les quelques pesos qu'il y avait dans nos poches. Et le type commence à s'éloigner, et là Quentin lui dit attendez une seconde, et il lui demande le chemin de la Boca.
Vous voyez, il a répondu.
Je ne sais plus s'il n'a pas répondu, non, je crois qu'il a continué son chemin sans nous répondre.
Décidément pas du tout facile à déstabiliser votre compagnon Quentin, mais il ne va faire qu'un bout du voyage avec vous, hein. Il ne restera pas tout le long du voyage, parce qu'il pensait avoir raté un écrit, un examen, finalement il est reçu, alors il vous abandonne. Ça change de nature, le voyage, quand on a commencé seul, on a l'impression qu'il y a une ambiance presque un peu potage quand vous êtes tous les deux ensemble, de bonne camaraderie, et tout d'un coup, seul.
Tout à fait. Et le livre devient peut-être plus grave, plus mélancolique, plus politique d'ailleurs, partir du moment où je ne voyage plus avec Quentin. Peut-être aussi plus poétique, parce que je crois que voyager seul est peut-être l'état le plus propice à la réflexion, à la rêverie poétique, tandis que lorsqu'on voyage à plusieurs, lorsqu'on voyage à deux, on finit par constituer une sorte d'entité qui se suffit à elle-même. Mmh. Et les rencontres aussi sont beaucoup plus faciles lorsqu'on est seul. Mmh.
Vous écrivez « La solitude est le combustible de l'imaginaire ». Il y a cette idée, hein, vraiment, qu'on se nourrit finalement de la solitude, plus qu'on ne perd avec la solitude. Alors vous évoquiez ces noms, parce que ce voyage, il est brossé par petites touches, par petites étapes, et il y a ce nom de Valparaiso qui vous faisait rêver étant petit, en regardant les cartes. Vous y allez, donc on est au Chili, hein, dans le sud du Chili, avec toutes ces maisons colorées. Racontez-nous Valparaiso.
Oh, c'est une ville, vous voyez, les mots se dérobent quand je parle de Valparaiso. Valparaiso, parce que c'est vraiment une ville magnétique, très puissamment magnétique. C'est une calypso qui vous retient auprès d'elle. Et Guevara et Granado n'ont pas passé beaucoup de temps à Valparaiso, mais moi beaucoup plus qu'eux, parce que je n'arrivais pas à m'en arracher de Valparaiso. C'est une ville qui est constituée de cerros, de plusieurs collines, une ville peinturlurée de plein de couleurs vives, une ville où il y a énormément de street art, de graffiti. Et puis, c'est une ville qui a perdu de sa splendeur, qui vit à crédit sur sa splendeur passée, parce que tous les navires avant s'arrêtaient dans le port de Valparaiso. Ouais. Et depuis qu'on a creusé le canal de Panama, eh bien, il s'évite ce long détour.
Et ces maisons colorées, pourquoi sont-elles colorées ? Vous avez plusieurs hypothèses à ce sujet.
Il y en a une, c'est que... Alors, bon, c'est comme à Burano, à Venise, vous savez, où sur cette île dans la lagune de Venise, où les maisons sont colorées pour que les pêcheurs puissent les reconnaître plus facilement dans la brume l'hiver. Donc ça, c'est une première hypothèse. Et puis la deuxième hypothèse, c'est que la ville s'est étendue à un moment très vite, de sorte qu'on n'avait pas encore nommé les rues. Et donc... pour plutôt que de dire j'habite telle maison dans telle rue, eh bien on disait c'est la jaune après la rouge dans la troisième rue à droite. Quoi.
Pour se repérer, même si ça ne doit pas être si facile que ça, il faut beaucoup de couleurs pour qu'on s'y retrouve. Alors vous le dites à Ernesto Guevara, lui ne va pas rester longtemps dans cette ville. Assez rapidement, le long du chemin, il écrit « Je sais maintenant que mon destin est de voyager et je l'accepte avec une forme de fatalisme ». C'est un peu ce qui vous arrive aussi
Ouais, alors sauf que lui... son destin, en tout cas tel qu'il l'envisageait à ce moment-là, était contrarié, puisque après ce premier voyage sud-américain, il est parti dans un deuxième voyage sud-américain qu'il a vu passer, notamment par le Guatemala et par le Mexique, où il a rencontré Fidel Castro, et c'est là que finalement son destin, sa vie a pris un cours tout à fait différent. Mais moi, ce voyage, qui est mon grand voyage inaugural...
C'est votre voyage initiatique.
C'est mon voyage initiatique. Finalement, c'est un virus qui ne m'a... J'aime pas trop ce terme parce qu'il est péjoratif, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, le voyage est l'ossature de mon existence.
Et le voyage, celui-ci, ce voyage initiatique que vous avez pris 8 ans avant de nous raconter et que vous allez nous raconter aujourd'hui, eh bien, il ne fait que commencer. L'écrivain François-Henri Désérable nous emmène à travers l'Amérique du Sud sur les pas d'Ernesto Guevara avant qu'il ne devienne le Che. Très bel après-midi à l'écoute du Temps d'un bivouac sur France Inter.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo. Tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Thank you. tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Et c'était le Buena Vista Social Club qui chantait Veinte Anos sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Lo pones al pedal aquí.
On a préparé la moto et hop, on a démarré. Sans se retourner. On a fait comme ça et en fait, on est parti en décembre 51.
Pour moi, ce voyage ne s'est jamais arrêté. Toutes les choses de la vie me le rappellent. Un vieil avion quand Ernesto est parti, un lépreux lorsque nous les soignons ensemble, un bateau, le radeau qu'il nous avait construit.
Je suis vraiment très fier. J'espère que notre histoire servira d'exemple aux jeunes d'aujourd'hui. C'est un message de liberté et de tolérance.
La voix d'Alberto Granado, le compagnon de route d'Ernesto Guevara lors de leur grand voyage initiatique à moto à travers l'Amérique du Sud. Alberto Granado est décédé en 2011, bien après Che Guevara. Notre invité François-Henri Désérable est parti sur les traces de ces deux hommes. Il raconte son voyage dans un livre intitulé « Chagrin d'un chant inachevé » aux éditions Gallimard. Alors vous avez voyagé au début à moto quand vous étiez deux et puis très rapidement, c'est le stop, hein, votre moyen principal de locomotion. C'est une bonne façon de rencontrer un pays et ses habitants, le stop.
Eux aussi, hein, parce qu'en vérité, on dit qu'ils ont fait un voyage à motocyclette avec cette fameuse Norton 500 cm3 qu'ils appelaient la Poderosa, la puissante, mais qui n'avait de puissante que le nom parce qu'elle les a lâchés très vite. Au début du Chili, elle les a lâchés et ils se sont retrouvés comme deux vagabonds non motorisés. C'est ce qu'écrit Guevara dans son journal. Ouais. Et effectivement, le stop, finalement, est le meilleur moyen de... Il y a une très belle expression colombienne pour dire faire du stop, ils disent ir con el chance, aller avec la chance. Eh bien, aller avec la chance est aussi le moyen le plus sûr pour aller à la rencontre des habitants des pays, des territoires qu'on traverse.
Bon, avec la chance et la malchance, hein, à un moment vous faites embarquer par... Alors il a l'air très sympa et très jovial, mais il vous dit qu'il a une arme dans la boîte à gants, qu'il vient de voler la voiture dans laquelle vous êtes.
Oui, mais ça fait partie des mésaventures qui donnent leur sel au voyage.
Oui.
Et c'est ce qui est très plaisant. Très déplaisant aux voyageurs,
oui.
Est assez fécond pour l'écrivain voyageur.
Oui, c'est ça.
Et finalement, vous savez, je sais qu'il existe un dictionnaire amoureux de l'aventure. Moi, je pourrais écrire un dictionnaire amoureux de la mésaventure.
Oui,
je trouve que la mésaventure est très féconde.
Ben oui, c'est sûr. On préfère quand il vous arrive des bricoles, parce que comme ça, c'est plus vivant. Notamment, vous traversez le désert d'Atacama, donc l'un des déserts les plus arides de la planète. Hein, on est au Chili. Manque de bol, c'est la panne dans ce désert.
Oui, alors c'est la panne, elle n'a pas duré très longtemps,
ouais.
Mais à un moment, effectivement, on s'est retrouvé coincé dans le désert avec deux types qui m'avaient pris en stop. Et puis, nos gourdes étaient à sec et nos téléphones n'avaient pas de réseau. Finalement, quelqu'un a fini par nous prendre et il nous a convoyés jusqu'à un observatoire astronomique qui s'appelle le Cerro Paranal, qui est en plein milieu du désert d'Atacama, parce que c'est là que le ciel est le plus pur.
Mmh.
Et vous savez, une des phrases que je trouve la plus belle dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, c'est au moment où l'empereur vieillissant va retrouver Rome, il est sur un bateau et il dit « Alors que la nuit tombe, les étoiles une à une montaient à leur place assignée. » Eh bien, j'ai pensé à cette phrase de Marguerite Yourcenar quand j'ai vu les étoiles une à une monter à leur place assignée pendant que s'ouvraient les télescopes géants des astronomes.
Alors, il y a évidemment mille et une raisons comme celle-ci de s'émerveiller. Il y a aussi, parfois, des prises de conscience. Ce fut le cas pour le Che Guevara, qui n'était pas encore le Che, pour Ernesto Guevara. Il rencontre le long de la route aussi un couple qui s'est fait spoiler parce qu'ils sont communistes, on leur a pris leur terre, ils sont sur les routes, ils n'ont pas d'autre choix que de voyager pour essayer de trouver du travail hypothétique dans une mine. Et là, la prise de conscience commence à se faire dans la tête d'Ernesto.
Ouais. C'est au Chili, à Chuquicamata. Granado et Guevara rencontrent ce couple de mineurs chiliens. Et ils vont passer la nuit avec eux. Et c'est vraiment un couple qui est démuni, qui n'a plus rien. Et ils passent la nuit avec eux et Guevara leur prête sa couverture. Et il dit qu'il n'a jamais eu aussi froid de sa vie, mais que paradoxalement, il n'a jamais autant ressenti la chaleur humaine. Et là, on sent qu'il y a une sorte d'indignation qui commence à naître dans son cœur. Mmh. Une indignation qui va grandir et grandir et grandir jusqu'à le voir faire la révolution à Cuba, essayer de l'exporter au Congo et ensuite en Bolivie.
N'allons pas trop vite. Vous commencez par la fin. Dans cette prise de conscience, il y a effectivement la mine. Alors vous avez essayé de retrouver la mine dans laquelle il s'était rendu, mais finalement les conditions s'étaient améliorées. Tant mieux d'ailleurs pour les mineurs. Mais vous avez trouvé votre mine qui vous a édifié et qui vous a bouleversé du côté de la Bolivie, à Potosi.
À Potosi, qui est l'une des villes les plus hautes du monde, hein, elle est à 4000 mètres d'altitude, et Potosi a été l'une des villes les plus riches du monde au XVIe et au XVIIe siècle, parce qu'il y a une montagne à Potosi qui s'appelle le Cerro Rico, le Mont Riche, en tout cas c'est comme ça que les conquistadors l'ont surnommé. 8 millions d'hommes ont été exploités pour creuser cette montagne et pour y extraire de l'argent et un certain nombre de minerais. 8 millions d'hommes y sont morts.
Oui, 8 millions, c'est énorme.
C'est énorme, en 5 siècles.
Ouais.
Et ce qui frappe lorsque vous vous promenez dans les rues de Potosi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules, mais très peu d'hommes. Et en fait, les femmes, ce sont les veuves des mineurs. Mmh. Et moi, j'ai pu passer plusieurs heures au cœur de cette montagne. Et les mineurs, vraiment, travaillent dans des conditions absolument dantesque. Je me souviens de l'un d'eux. Alors ils sont toujours la bouche gonflée par des feuilles de coca pour tenir le coup. Ils boivent de l'alcool à 96 degrés, sin fecha de caducidad, sans date de péremption. Et je me souviens d'un mineur notamment qui avait un peu moins de 40 ans, qui en faisait 15 de plus, à qui on venait de diagnostiquer la silicose, qui est cette maladie des poumons, qui savait très bien qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre et qui s'échinait dans le peu de temps qui lui était imparti à creuser encore et encore pour trouver un nouveau filon que son fils de 12 ans pourrait ensuite exploiter.
C'est-à-dire que ces hommes qui, vous le dites, les années sont marquées sur leur visage, ils font beaucoup plus vieux que leur âge, ils sont malades, ils ne voient pas d'autre perspective pour les générations suivantes que ce sort de la mine, où vous dites, alors à l'extérieur de la mine, on croit en Dieu, à l'intérieur de la mine...
On prie le diable, effectivement, on croit beaucoup en Dieu à l'extérieur de la mine, mais dans la mine, c'est le diable qui est souverain. Tout à fait.
Et pourtant, c'est ce qu'on espère pour son fils.
Et pourtant, ils se disent que c'est leur billet de loterie, que de trouver un nouveau filon, c'est vraiment de là que viendra le salut.
Alors, en son temps, Ernesto Guevara voit aussi les mineurs sélectionnés par les employeurs devant les camions, et il est à son tour révolté par la façon dont on les traite.
Toi derrière, et toi aussi. Allez-y. Les autres, là, vous pouvez rentrer chez vous. Allez, plus vite que ça, là. Montez dans le camion, là, dépêchez-vous. Allez, on embarque. Hé, vous deux, qu'est-ce que vous faites là?
On regarde, c'est pas défendu.
Vous regardez quoi, imbécile? C'est pas une attraction touristique, foutez le camp.
Vous voyez pas que ces gens ont soif? Putain, vous pourriez au moins leur donner à boire, non?
Ferait mieux de te barrer! Ou la sécurité te mettra derrière les barreaux.
Fils de pute!
En quittant la mine, nous avons senti que la réalité commençait à changer. Où était-ce nous qui changions? À mesure que nous avancions dans la cordillère, nous rencontrions de plus en plus d'Indiens qui n'avaient même plus de toit sur ce qui fut jadis leurs terres ancestrales.
Au fur et à mesure de son voyage, Ernesto Guevara prend conscience des injustices, des mauvais traitements infligés aux mineurs, aux populations locales, aux Amérindiens. C'est les ferments de ce qui fera de lui un révolutionnaire. En quoi, vous, ça vous a transformé? Vous n'êtes pas manifestement devenu, 8 ans après, un révolutionnaire. Est-ce que quand même, ça vous a un petit peu transformé. Vous dites aujourd'hui, quand je pense à la mine, mes problèmes du quotidien, c'est plus facile de les relativiser.
Alors c'est vrai que ça aide à relativiser, parce que dans cette mine, il y a un des mineurs qui veut faire un petit caillou comme ça, il m'avait dit pose-le sur ton bureau et tu penseras à nous. C'est vrai que quand vous travaillez, quand vous êtes à votre table de travail, à Montmartre, confortablement assis dans un siège qui est réglable en plusieurs positions, avec un mug de thé brûlant à portée de main, et que vous désespérez parce que vous ne parvenez pas à écrire, parce que écrire ça peut être difficile, c'est une galère. Souvent, eh bien, vous relativisez, c'est-à-dire que vous pensez aux conditions de travail des mineurs, et là, vous vous dites que, ben, vraiment, vous dites, mon pauvre vieux, t'as pas de quoi te plaindre. Et ce voyage, c'est peut-être grâce à ce voyage que je me suis senti. Je suis pas un écrivain engagé, mais j'aime beaucoup la distinction que fait Camus. Camus préfère au terme écrivain engagé celui d'embarquer, embarquer dans la galère de son temps. Et je crois que depuis ce voyage, je me sens embarqué dans la galère de mon temps. Et que je ne peux pas simplement fermer les yeux, tourner le dos au monde, rester dans ma thébaïde et écrire mes petits textes comme ça, sans laisser entrer le fracas du monde.
Le fracas du monde et les beautés du monde également. Je crois que le moment qui vous a le plus marqué, où vraiment vous êtes en extase devant ce que vous avez devant les yeux, on est près du lac Titicaca, au niveau du lac Titicaca, racontez.
Ouais, alors, il y a eu plusieurs moments où j'étais en extase face à la féerie d'un paysage. Ça a été le cas aux chutes d'Iguassou en Argentine, c'était le cas évidemment au Machu Picchu, c'était le cas dans le désert d'Atacama, c'était le cas dans la jungle amazonienne, et puis c'était le cas sur le lac Titicaca, ce lac que se partagent la Bolivie et le Pérou, sur une île du côté bolivien qui s'appelle l'Isla del Sol. Alors, l'Isla del Sol, c'est une petite île peuplé d'eucalyptus et de lamas, essentiellement, aux crêtes pelées, avec le lac Titicaca à perte de vue. On est à 4000 mètres d'altitude, et puis la cordillère des Andes en arrière-plan. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui arrive assez rarement dans une vie, mais j'ai eu des larmes d'extase panthéiste.
Ah oui, carrément, voilà.
C'est-à-dire frappé par la beauté absolument sidérante de ce paysage. Ce qui est d'ailleurs assez difficile quand on est écrivain, parce que on a peur que l'indigence de nos pauvres mots ne rende pas hommage au plus juste des paysages qui sont devant nos yeux.
Mais c'est vrai que je me suis fait cette réflexion en vous lisant, que vous avez l'air, avec les descriptions, alors je ne sais pas si c'est un artifice d'écrivain ou si ça cache effectivement, comme vous le dites là, parfois les mots manquent pour décrire, mais notamment vous êtes devant les cascades d'Iguazu, et c'est tout au début du voyage, et vous dites je ne vais pas les décrire, puis finalement en fait vous les décrivez quand même un petit peu. Arrivé à Puno, à la porte d'entrée du Pérou, via le lac Titicaca, vous écrivez « Pas de lyrisme, tant mieux, il faut en finir avec l'extase panthéiste dont regorge la littérature de voyage ». On a l'impression qu'il y a toujours ce jeu, même pour le désert de sel aussi que vous traversez, qui a l'air sublime également, de toujours « Est-ce que je vous raconte ? Est-ce que je vous décris ? Ou est-ce que je vous laisse imaginer ?»
Mais peut-être que, oui, c'est aussi l'un des écueils dans lequel on ne veut pas tomber lorsqu'on écrit un récit de voyage, c'est d'absolument tout décrire. Et il faut laisser sa part au lecteur, en quelque sorte. La puissance d'évocation de certains toponymes suffit pour avoir cette féerie et lire entre les lignes.
Allez, on ira faire un tour quand même du côté du Machu Picchu tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des endroits qui méritent d'être décrits et d'être partagés. Nous poursuivons notre voyage à travers l'Amérique du Sud avec vous, François-Henri Désérable, sur les traces de Ernesto Guevara avant qu'il ne devienne le Che. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Ne prends pas la tête, je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans l'arène. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fume à perte de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? J'allume le gros mythe. Je voudrais chanter toute ma vie.
C'était Yamé qui chantait Shoot sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Les Incas avaient de grandes connaissances en astronomie, en médecine, en mathématiques et dans bien d'autres domaines. Mais l'envahisseur espagnol avait la poudre. Que serait l'Amérique aujourd'hui si les choses s'étaient passées autrement? Comment est-il possible que j'éprouve de la nostalgie pour un monde que je n'ai pas connu? Comment expliquer qu'une civilisation capable de construire ceci ait été anéantie pour construire ça?
Les interrogations du jeune Ernesto Guevara avant qu'il ne devienne le Che. Il se demandait comment on avait pu passer du Machu Picchu à la ville de Lima. Lima, la capitale du Pérou par laquelle notre invité François-Henri Désérable est passé. Il est parti sur les traces de Che Guevara, refaisant son grand voyage de 8000 km à travers l'Amérique du Sud. Un mot sur le Machu Picchu, parce que vous le dites, quand vous arrivez au Machu Picchu, votre livre prend un peu des allures de romans d'aventure, parce qu'il y a cette découverte du Machu Picchu qui est absolument incroyable.
Alors, la découverte scientifique.
Oui, c'est vrai, vous précisez bien que ce n'est pas une découverte.
Je précise, parce que de même que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, et que ce sont des Indiens qui ont vu débarquer un type, un Génois dans ses caravelles, le Machu Picchu a été découvert scientifiquement par un jeune homme, un Américain, qui étudiait à l'université, qui était professeur à l'université de Yale, qui s'appelait Hiram Bingham et qui le découvre au début du XXe siècle. Il cherchait la dernière cité, la cité perdue des Incas, la dernière capitale des Incas. Et finalement, il n'a pas trouvé. Enfin, il a trouvé la dernière capitale des Incas. Il n'est pas parvenu à comprendre que c'était la dernière capitale des Incas. Et puis, il a continué à chercher. Il est tombé sur le Machu Picchu, qui était recouvert de mousse à l'époque. Et il y avait quand même deux fermiers qui habitaient là, qui avaient fait planter des petits trucs. Donc, il y avait des gens qui avaient connaissance du Machu Picchu. Mais c'est Hiram Bingham qui ensuite a publié un long article dans, je crois que c'était National Geographic à l'époque. Et puis, de là, on a commencé à débroussailler, à cartographier, à se demander ce que c'était que cette cité, et puis à la visiter. Et on a beau s'y attendre, on a beau l'avoir vu en photo, eh bien, lorsqu'on arrive au Machu Picchu, et c'est assez bien fait parce qu'on ne le voit qu'au dernier moment, et le panorama s'offre d'un coup dans sa totalité à nos yeux, tout à fait, à notre regard tout à fait ébahi, c'est, C'est stupéfiant.
C'est stupéfiant. Et on ne peut pas dire, c'est là où le Che a raison, Ernesto Guevara, on ne peut pas dire que ça fasse le même effet quand on arrive à Lima aujourd'hui. On n'a pas le même effet époustouflé. Et vous racontez, alors je ne sais pas si c'est un fait avéré, mais en tout cas c'est assez amusant, que peut-être que justement si Lima se trouve à cet emplacement-là, c'est parce que c'est le dernier coup qu'ont fait les Incas aux conquistadors qui les avaient vaincus.
Et notamment à Pizarro, qui cherchait une ville pour établir sa cité des rois. Et il se trouve qu'il y a un microclimat qui est absolument dégueulasse à Lima. Il y a seulement la garoua, qui est une sorte de smog au carré, qui est un brouillard très épais qui recouvre la ville 10 mois sur 12. Et il y a un mois qui est en janvier, où là il y a du soleil, où le ciel est bleu. Et alors on raconte que les Incas, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais que les Incas auraient dit en janvier à Pizarro d'aller jeter un œil sur ce lieu. Pizarro, voyant que le climat était plutôt agréable, a décidé d'y poser la première pierre, ce qui a donné cette ville qui s'appelle aujourd'hui Lima, où il fait un temps absolument affreux.
Il fait un temps affreux, et à Lima, vous allez aussi prendre la mesure de la misère qui côtoie la richesse avec ce mur de la honte, qu'on appelle le mur de la honte à Lima.
Mais ça, c'est... Il y a une colline en périphérie de Lima, sur le flanc de laquelle les très riches liméniens, au début des années 90, ont fait construire des villas d'architectes avec des piscines à débordement, des garages remplis de voitures de luxe, des gazons bien verts, continuellement arrosés par des tuyaux d'arrosage automatique. Sauf que de l'autre côté de la colline, eh bien, il y avait des bidonvilles. Ces bidonvilles étaient d'abord en bas, puis ils ont commencé à monter. Et pour éviter que les bidonvilles ne viennent s'établir jusqu'au pied des villas, qu'ont fait les riches ? Ils ont fait bâtir un mur tout le long de la ligne de crête. C'est un mur de 10 km de long, de 3 mètres de haut, hérissé de tessons de bouteilles et de fils barbelés. Les riches l'appellent El Muro, le mur, les pauvres El Muro de la Vergüenza, le mur de la honte. C'est peut-être le seul mur de ségrégation économique et sociale au sein d'une ville.
Je vous propose d'écouter le témoignage d'une habitante de Pamplona Alta, donc ça fait partie de ces bidonvilles qui sont du mauvais côté du mur, on va dire. Elle s'appelle Erika, elle a 35 ans, avant de tombée enceinte de son troisième enfant. Elle était conductrice de bus et l'exode rural l'a conduite dans ce quartier sans eau courante ni assainissement.
Je suis arrivée ici il y a 5 ans, comme tous les autres. Je voulais juste une autre vie, pas celle qu'on mène à la campagne. Il n'y avait rien ici, rien que des pierres et de la terre sèche. Pas de maison, pas d'escalier, rien. Nous devions grimper toute la pente en zigzag. Aujourd'hui encore, nous portons tout à pied. Les courses, l'eau, le matériel. Au moins, nous avons les escaliers qui n'existaient pas avant.
François-Henri Désérable, vous avez besoin de visiter les bidonvilles des pays que vous traversez, de rencontrer celles et ceux qui y vivent. Pour quelle raison ?
C'est pas du tout en voyageur épris de misère pittoresque. Hein. C'est vraiment en ethnologue amateur, en quelque sorte, qui cherche à voir pour comprendre les conditions de vie de ceux que les autorités voudraient dérober aux yeux des étrangers. Un tiers des Péruviens vivent dans des bidonvilles, et si on se contente lorsqu'on va au Pérou d'aller simplement visiter les sites qui ont 3 marcheurs dans le guide du routard, on revient du Pérou en se disant que c'est un pays absolument formidable et magnifique, mais finalement on ne le connaît pas beaucoup mieux. Et donc moi, à chaque fois que je me retrouvais dans des grandes villes, dans des grandes capitales, j'allais dans les bidonvilles pour voir l'autre revers, en quelque sorte.
Et puis vous dites que pour comprendre ce que le Che a représenté et représente encore pour ces hommes et ces femmes dans la misère, pour ces damnés de la terre, il faut aussi... regarder le monde de leur point de vue. Vous avez une très belle métaphore avec cette petite fille qui regarde.
Bah, effectivement, parce que en fait, plus on monte cette colline, plus c'est pauvre. Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, lorsqu'il se promène dans les bidonvilles, dans les favelas brésiliennes, dit que la position sociale se mesure à l'altimètre. Elle est d'autant plus basse que l'on est haut. Pourquoi ? Parce que si on a plus d'argent, on est en bas. Parce que l'eau est livrée par des camions-citernes et ensuite, il faut la porter dans des bidons. Et alors, plus vous habitez haut, plus ça demande d'efforts, de temps, etc. Et donc, plus on monte, plus c'est pauvre. Et tout en haut, là où il y a le mur de séparation, je vois une petite fille qui est vraiment qui est en haillon. Et je me dis qu'un jour, eh bien, elle va se hisser par-delà le mur et elle va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Et elle va voir ces villas d'architectes. Elle va voir l'inégalité très forte qu'il y a à Lima. Et surtout, ce qui va la frapper, eh bien, c'est les gazons bien rouges avec les tuyaux d'arrosage automatique. Et quand elle va apprendre que l'eau du côté riche est 10 fois, 20 fois moins chère que celle qu'il faut convoyer par camion-citerne du côté pauvre, eh bien, peut-être que la figure de Che Guevara, qui était un indigné permanent contre l'injustice, qui était quelqu'un qui a subordonné son existence aux causes d'une exigence qui le dépassait, eh bien, peut-être que cette figure va vouloir dire quelque chose pour elle, et que dès qu'elle entendra ces trois lettres, Che, eh bien, elle aura un battement de cœur. Et c'est vrai que la figure de Che Guevara, qui est parfois aussi décriée, elle veut dire quelque chose pour les plus déshérités, pour les petits, les obscurs, les sans grade, les infortunés de ce monde. Et souvent, on voit son portrait dans les bidonvilles sud-américains.
Alors, on le voit, vous ne vous contentez pas de la carte postale quand vous visitez ces pays. Tout de même, quand vous arrivez au Venezuela, un chauffeur de taxi vous insulte à moitié, hein, ce chauffeur de taxi. Il vous conduit à l'aéroport. Vous avez fini de visiter le Venezuela. Et il vous dit « Cogno, tu vas rentrer dans ton pays et tu vas dire que tu as vu le mien. Tu vas parler de Caracas, de la misère, de l'inflation, de la violence, de la peur. Mais que connais-tu vraiment du Venezuela ?» C'est une question que vous vous posez souvent quand vous écrivez sur les pays que vous traversez, et si j'avais fait fausse route, et si j'étais passé à côté de l'essentiel ?
Oui, on a peur d'être une outre autosatisfaite, extrêmement arrogante, et le voyage vient la dégonfler. Et justement, je me pose moins cette question à la fin du voyage, parce que le voyage a cette vertu d'amenuiser votre ego.
C'est ça, quand vous dites d'amenuiser votre ego, vous ne cherchez pas à vous comprendre, à aller au plus profond de vous-même. Vous voyagez pour vous débarrasser un peu de...
C'est aussi l'une des autres vertus du voyage, c'est qu'on en apprend davantage sur soi-même. Et moi, j'en apprends aussi davantage sur moi-même lorsque je suis sur la route. Mais à ceux qui voyagent pour se trouver, je préfère ceux qui le font dans le but de se perdre. Et je crois qu'en levant les yeux sur le monde, on se regarde un peu moins le nombril. Et moi, c'est la raison pour laquelle je voyage, c'est que je veux aiguiser mon regard.
Notre périple n'est pas tout à fait terminé. Nous allons finir en Bolivie dans un instant, là où le Che Guevara est mort. Une quinzaine d'années après son grand voyage, vous vous êtes rendu sur les lieux, François-Henri Désérable, et vous allez nous raconter. Sugar, let me taste your sugar. You keep it super. C'était Obong Jayar qui chantait Sweet Danger sur France Inter. Et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Je prends donc la parole pour vous exprimer notre reconnaissance à vous tous, tout le personnel de la léproserie. Je remercie de tout mon cœur le peuple du Pérou qui nous a accueillis à bras ouverts dans ce pays. Il y a encore une chose dont j'aimerais beaucoup vous parler, si vous le permettez. Je suis conscient que nos modestes personnalités nous empêchent de défendre votre cause comme il se doit. Et pourtant, nous croyons fermement, et encore plus après ce voyage, que la division de l'Amérique en nationalités incertaines est illusoire et complètement fictive. Nous formons une seule race métisse, du Mexique jusqu'au détroit de Magellan, résolu à laisser définitivement tout provincialisme derrière moi. Je lève mon verre au Pérou et je bois à l'Amérique unie.
De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Ernesto Guevara, s'adressant à celles et ceux qui l'avaient accueilli dans la léprerie où il a travaillé lors de son périple à travers l'Amérique du Sud. Cette léprerie se situe en pleine jungle. Vous êtes, vous aussi, allé dans cette jungle, François-Henri Désérable, pour suivre Ernesto Guevara sur ses traces. Alors vous n'êtes pas allé du côté de la léprerie. Hein,
Elle n'existe plus, mais la jungle existe et c'est fascinant, la jungle, parce que c'est une symphonie permanente, c'est un opéra permanent. C'est un peu comme lorsque les musiciens accordent leurs instruments tous ensemble avant un concert de musique classique. Donc c'est une sorte de cacophonie permanente, mais qui réjouit l'oreille, parce que la jungle se saisit par l'oreille. Et il y a notamment un oiseau qui s'appelle le pio hurleur, le paipayo, qui est la sentinelle de la jungle amazonienne et dont le chant trisyllabique est le véritable hymne de la jungle.
Alors là, on l'entend pas, cet oiseau-là, mais par contre, ça, ce son-là, c'est vous qui nous l'avez donné, c'est vous qui avez enregistré cette jungle grouillante de son. Ah, on entendait aussi Ernesto Guevara faire ce discours dans la léprerie, un discours déjà très construit. Alors c'est peut-être un peu romancé avec le film Carnet de voyage, mais déjà on sent l'homme politique qui naît, le révolutionnaire marxiste, communiste qu'il deviendra. Alors il va devenir ami avec Fidel Castro, mener à ses côtés la révolution à Cuba. Et à cette occasion, il va écrire une lettre à ses parents. C'est dans cette lettre, finalement, que vous avez été puisé le merveilleux titre de votre livre, Chagrin d'un chant inachevé.
Oui, il se retrouve au Mexique, il fait la connaissance de Raoul Castro, qui lui dit, il faut absolument que je te présente mon frère. Et ensuite, il rencontre Fidel, il y a un coup de foudre amical entre les deux. Et puis, les parents de Guevara lui écrivent, écoute, Ernesto, il serait temps que tu rentres à Buenos Aires, que tu t'établisses comme médecin, parce qu'il avait fait des études de médecine, que tu nous fasses de beaux petits-enfants et que tu en finisses avec tes pérégrinations. Et dans une lettre à ses parents, Ernesto écrit « Mes chers parents, j'ai fait la connaissance d'un jeune leader cubain destiné à libérer son pays par les armes. Désormais, mon sort est lié à celui de la révolution cubaine. Je triompherai avec elle, ou je mourrai là-bas. » Et il conclut en citant un vers de Hikmet, qui est un poète turc, mais qu'il a lu en espagnol « Solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso ». Si on le traduit en français, ça fait cette superbe allitération en tché. « Je n'emporterai dans la tombe que le chagrin d'un chant inachevé. »
Alors, il va emporter dans la tombe le chagrin d'un chant inachevé en Bolivie. C'est-à-dire qu'après avoir mené la révolution à Cuba, il va partir du côté du Congo, là ça va tourner court. Il part en Bolivie et c'est là qu'il va être exécuté. Vous êtes passé par la Bolivie lors de votre trajet, alors que lui, lors de son voyage initiatique, n'était pas allé en Bolivie. Mais vous y êtes allé pour justement voir le lieu où il avait été exécuté. Racontez-nous comment c'est passé. Alors, on a plus qu'une minute, mais comment s'est passée cette exécution?
C'est à la Higra, dans le Nankawatsu. Il a été capturé après près de 10 mois de guérilla où il n'a fait absolument aucune recrue. Capturé par l'armée bolivienne et puis exécuté avec l'assentiment, dit-on, de la CIA. Et c'est un type qui s'appelle Mario Terán, qui est un soldat bolivien qui va devoir l'exécuter et qui, arrivant devant lui, se met à trembler parce que Guevara n'était pas n'importe qui. Et le dernier mot de Guevara, c'est « Ne tremble pas et vise juste, tu ne vas tuer qu'un homme ».
On est sûr de cette phrase qu'il a prononcée ou c'est la légende?
Elle a été rapportée par Mario Terrane. Mais bon, quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende.
C'est joliment dit. Qu'est-ce qui reste justement de cette légende sur place? Il hante encore les lieux, c'est vraiment une légende vivante.
Ah ben, c'est-à-dire que alors c'est un village où il y a à peine une centaine d'habitants et son visage est sur chaque mur. Je n'ai jamais vu un lieu où il y avait autant de ferveur pour une personne nulle part dans le monde.
Et vous, François-Henri Désérable, qu'est-ce qui vous reste à vous de ce voyage? 8 ans après, il y a ce livre. Vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous en reste? Vous avez dit, c'est mon premier voyage initiatique.
L'envie de repartir inlassablement et de toujours continuer à écrire ce petit livre à coups de tampon qu'on appelle un passeport.
Merci François-Henri Désérable. Je rappelle le titre de votre livre, Chagrin d'un chant inachevé sur la route de Che Guevara aux éditions Gallimard. Le temps d'un bivouac, replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.